1538. L'actualité tout autour de la Méditerranée.
1538, Méditerranée. Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Liban, Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de 1538 Méditerranée sur les ondes de Radio Grenouille, l'occasion de tourner une nouvelle fois notre regard du côté de la mer en allant à la découverte de ce qui se passe au Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient et chez nos voisins d'Europe du Sud. Au micro de cette demi-heure, Colline et Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Comme chaque mois, nous revenons sur les grands enjeux des sociétés méditerranéennes à travers les dossiers traités sur notre magazine d'information en ligne www.1538méditerranée.com et grâce au travail de nos correspondants partout dans la région. Ce mois-ci, nous publions un dossier spécial Ville méditerranéenne, une série de reportages qui s'intéresse aux enjeux d'un développement égalitaire partout dans la région, réalisé avec le soutien du réseau Ritimo. Nous nous sommes intéressés au tourisme de masse à Barcelone, aux politiques urbaines en Turquie qui prennent un virage autoritaire et conservateur, et à Beyrouth, Emmanuel Haddad nous emmène dans le camp de Chatila. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Colline.
Alors pour ton reportage, tu es allé à la rencontre des habitants d'un ancien hôpital dans le camp de Chatila, donc à Beyrouth. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de t'intéresser à ce sujet quand on t'a proposé le thème du développement urbain? Quel est l'enjeu en fait là-bas?
Alors il y a un contexte général au niveau du développement urbain au Liban lié vraiment à l'accueil des réfugiés. Donc juste pour rappeler que le Liban... Et le pays qui proportionnellement accueille le plus de réfugiés au monde actuellement, avec plus d'un million de réfugiés syriens aujourd'hui, même s'ils sont en train de rentrer au compte-gouttes en Syrie. Et à l'origine, beaucoup de réfugiés palestiniens. Et du coup, le Liban, les autorités officielles libanaises ont toujours eu un discours quant à l'accueil des réfugiés syriens, en les considérant comme un fardeau. C'était un moyen de recevoir des fonds auprès de la communauté internationale en disant qu'ils ne voulaient pas assumer. Donc ce qui était intéressant au niveau urbain, et c'était de constater que finalement les réfugiés s'agrègent à des poches de pauvreté préexistantes, et donc le camp de Chatila est un petit peu l'incarnation, en tout cas le côté le plus emblématique de cette, ce qu'on appelle la ceinture de pauvreté qu'entoure Beyrouth. Avec une population réfugiée déjà très densifiée sur 1 km², et où finalement, en fait, quand on regarde plus près, on voit que ce camp de réfugiés originel s'est transformé aujourd'hui en un ghetto pour pauvres travailleurs, migrants et réfugiés. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu, d'une part, le deux poids deux mesures entre le discours officiel sur la situation du pays face aux réfugiés syriens, et dans la réalité, où se trouvent ces réfugiés syriens et quelles sont leurs conditions de vie. Et finalement, la situation de tout ce que ça implique en termes de complications pour les personnes eux-mêmes, des réfugiés palestiniens qui vivent déjà des conditions exsangues, de marginalisation en termes de droits socio-économiques auxquels s'ajoutent des réfugiés syriens qui souffrent les mêmes conditions, et donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait dans les faits.
Et finalement, dans cet hôpital de Gaza, là, qui est un ancien hôpital dans le camp de Chatila, qui sont les personnes qui habitent l'hôpital et comment tu es entré en contact avec eux? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton métier vraiment sur le terrain, toi, en tant que journaliste là-bas?
Ouais, bien sûr. Donc là, c'est le contexte un petit peu, voilà, pour recadrer. Concrètement, donc j'ai entendu parler donc de cet hôpital qui a une histoire fascinante parce que c'était apparemment l'hôpital un petit peu le mieux financé depuis la guerre civile en 1975, à l'époque où les autorités palestiniennes avaient beaucoup d'argent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il incarne vraiment aussi l'évolution de ce pays et l'évolution liée à la guerre civile aussi. Donc moi, concrètement, j'allais beaucoup à Chatila pour travailler sur certains sujets. Et là, c'est l'arrivée d'une photographe étrangère qui s'intéressait à ces questions, qui m'a reparlé de cet hôpital. Et je me suis dit que c'était une occasion de peut-être Avoir une unité de lieu pour faire un reportage, c'est intéressant parce qu'on justement on peut aborder beaucoup de questions qui sont parfois complexes en un même endroit. Et donc là, il y a une grande complexité, que ce soit à travers l'histoire des réfugiés palestiniens eux-mêmes, du massacre de Shatila qui s'est passé à deux pas de l'hôpital. Des victimes sont venues se faire soigner dans cet hôpital à ce qui est devenu aujourd'hui le camp de Shatila. Donc c'est plutôt un symbole de pauvreté et de marginalisation, à la situation des réfugiés syriens qui s'installent dans ce camp. Comment expliquer ça? Donc se retrouver dans un lieu, en plus un lieu qui est quand même très, enfin visuellement, c'était quelque chose de très fort. Donc on est dans une petite allée avec voilà énormément de brouhaha. C'est bon, l'entrée du camp de Shatila avec des sites électriques informels partout, des enfants sur des scooters, voilà, beaucoup de gens sans travail ou avec des menus d'emploi au noir. Et il y a cet énorme bâtiment donc, qui est un ancien hôpital, qui est maintenant un énorme squat, en fait. Et donc, pour y entrer, il a suffi de s'adresser aux jeunes qui jouent au billard au pied de la tour, de parler avec eux. Et puis, un jeune qui s'appelle Mahmoud, qui est montré très disposé à nous, voilà, nous faire visiter un des membres de sa famille. Et lui-même nous a finalement raconté qu'il était né à l'hôpital, à l'époque où c'était encore un hôpital, en pleine guerre civile. Et du coup, voilà, on est rentré dans l'histoire à travers la vie de Mahmoud. Et au fur et à mesure, on a commencé à visiter les différents habitants. Donc aujourd'hui, ce que j'ai pu dire dans le reportage, c'est que les Syriens ont remplacé les Palestiniens. Et donc, il y a différentes interprétations là-dessus. Pour les Palestiniens, les Syriens sont un fardeau. Donc finalement, c'est eux qui prennent le travail, ils tirent un petit peu les prix vers le bas. Et du coup, ils s'installent et les Palestiniens souffrent. Pour les Syriens, les Palestiniens, quelque part, exploitent leur situation. C'est-à-dire que les Syriens, c'est les pauvres des pauvres. Ils sont encore pires que les Palestiniens. Et du coup, les Palestiniens ont loué leur chambrette insalubre dans la tour à des familles syriennes parce qu'ils savent pertinemment que ces Syriens n'ont pas d'autres possibilités que de louer dans ce quartier-là. Et ça leur a permis, eux, du coup, d'avoir une espèce de surclassement, de pouvoir s'installer dans des quartiers un petit peu mieux grâce au loyer qu'ils ont eu de ces familles syriennes. Donc, on a rencontré beaucoup de Syriens, de Palestiniens et chacune avec une version différente sur la réalité, mais on peut dire que les deux groupes vivent dans des conditions très difficiles.
Et est-ce qu'ils reçoivent d'une manière ou d'une autre de l'aide, les réfugiés, soit palestiniens, soit syriens, ou ils sont vraiment laissés à la débrouille?
Alors, on peut dire qu'ils reçoivent de l'aide. Après, au cas par cas, les situations diffèrent, mais ils reçoivent de l'aide de l'ONU, mais chacun d'une agence différente. Les Palestiniens, historiquement, reçoivent de l'aide de l'UNRWA, qui est l'agence pour les réfugiés palestiniens, créée en 1948, et les Syriens de l'UNHCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce qu'on peut dire pour les deux, encore une fois, finalement, leur destin se recroise, c'est qu'ils sont face à des grosses baisses de soutien humanitaire. L'UNRWA, on le sait, ou on l'a entendu peut-être en France, les États-Unis ont coupé leurs fonds, donc c'était le plus gros donateur, donc 360 millions à cette agence l'an dernier. Les écoles ont failli fermer au Liban pour les Palestiniens. Donc toutes les aides de l'UNRWA sont, tout ce qui est santé, éducation, c'est vraiment des aides de base, hein, avoir de l'eau potable, sont menacés. Et pour l'UNHCR, pour les réfugiés syriens, c'est pareil. Hein. C'est tous les ans, les budgets initiales et finalement les jamais atteints, et les réfugiés se plaignent de voir leur aide recoupée. Et donc, la plupart des réfugiés rencontrés dans cette tour ont affirmé de ne pas recevoir d'aide ou très peu. Donc, ils sont pour la plupart livrés.
D'accord. Merci Emmanuel de nous avoir un petit peu donné du contexte sur cette situation. On peut retrouver ton reportage avec les photos de la photographe qui t'a accompagné sur le site dans le dossier que nous venons de mettre en ligne, Ville méditerranéenne, les enjeux d'un développement égalitaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on essayera de suivre cette situation au fil des mois sur 1538 Méditerranée. À bientôt.
À bientôt.
1538, des clés pour comprendre et agir. 1538méditerranée.com. Il y a 7 mois, le 5 novembre 2018, il était 9h passées de quelques minutes, un premier immeuble s'effondre, rue d'Aubagne à Marseille, un autre suivra, 8 personnes décèdent. Avec nos invités aujourd'hui, nous revenons sur les conséquences de ce drame, notamment pour les personnes évacuées partout dans la ville aujourd'hui. Nous accueillons Emmanuel Patrice, qui est urbaniste et qui fait partie de l'association Un Centre-Ville pour tous, et Martin Lefebvre pour le collectif du 5 novembre. Bonjour.
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 Alors vous, Emmanuel, vous faites partie donc d'Un Centre-Ville pour tous, association marseillaise créée en 2000, il y a 19 ans, et qui veille à faire respecter par les pouvoirs publics le droit à vivre en centre-ville, et notamment le droit à l'habitat décent. Et quel est votre niveau de mobilisation aujourd'hui depuis les effondrements dans le centre-ville de Marseille, et quels ont été les enjeux depuis toutes ces années ?
Oui, alors Un Centre-Ville pour tous, ça fait à peu près effectivement 20 ans que l'association existe. Elle a un rôle d'analyse critique des dispositifs qui sont mis en place, un rôle de pédagogie vis-à-vis des Marseillais sur l'ensemble des questions urbaines. Et effectivement, elle travaille depuis toutes ces années sur le droit à la ville. À travers différents moments, il y a eu la rue La République, il y a eu les périmètres de restauration immobilière, notamment dans le quartier de Belzunce, à Marseille dans le premier, mais aussi au Panier et dans un dernier temps sur Noailles. Et effectivement, depuis les effondrements des immeubles, elle s'est remobilisée sur la question de l'habitat indigne. Enfin, ça fait depuis 20 ans qu'on y travaille, mais encore peut-être davantage depuis l'électrochoc qu'a connu Marseille. Et donc intervient de façon presque quotidienne sur ces questions-là, à travers la mise en réseau d'un ensemble d'organisations, d'un travail à la fois pédagogique, à la fois de questionnement et d'interpellation des pouvoirs publics sur la situation à Noailles et sur l'ensemble de Marseille en ce qui concerne l'habitat indigne. Et donc on travaille notamment dans ce cadre-là, dans le cadre d'une coordination avec un ensemble d'acteurs sur une discussion avec les institutionnels, avec l'État et la ville de Marseille, pas la métropole pour l'instant, et ça fait longtemps qu'on l'interpelle sur cette question-là, mais elle est toujours absente des négociations, mais sur un document qui est une charte de relogement qui va permettre, on l'espère, si elle est signée, d'accompagner les familles, les ménages qui sont évacués dans l'ensemble du processus de relogement et de leur garantir un ensemble de droits.
Oui, parce qu'on parle aujourd'hui de plus de 3000 personnes évacuées, délogées, et pour certains, parfois, qui sont réintégrés dans des logements insalubres après avoir fait quelques travaux pour le propriétaire, avec des levées de mise en péril qui sont assez rapides. Et on a vu donc ce collectif se créer aussi, dont vous faites partie aussi, collectif 5 novembre. Quelle est la situation aujourd'hui quand vous discuter à la même table, Martin, avec ces personnes qui représentent la ville de Marseille et qui sont responsables de ces questions.
La situation, 6 mois après, effectivement, on a des familles qui réintègrent des logements dans des conditions discutables. On a des élus qui, finalement, essayent de participer tant bien que mal à la négociation d'une charte du relogement. Néanmoins, on considère que davantage de travail pourrait être fait, davantage d'outils pourraient être développés de la part des élus, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce travail actuellement, là, cette négociation, pour aller plus loin, pour accompagner les familles à réintégrer des logements dignes, et en fait à accompagner aussi les politiques publiques pour diminuer le logement indigne à Marseille.
Et qu'est-ce que dit cette charte, justement, que vous proposez aujourd'hui, proposez à la ville de Marseille ?
Alors, elle dit beaucoup de choses, mais effectivement, sur la question des réintégrations, c'est une situation qu'on rencontre dans une majorité de cas, hein, puisque, effectivement, quand on a une main levée d'arrêté de péril, on a donc les familles qui ont presque l'obligation, sauf si elles ne le souhaitent pas, mais de réintégrer leur logement, puisque la prise en charge de l'hébergement, qui est normalement due par le propriétaire, mais auquel la ville se substitue à ses frais avancés, s'arrête à la main levée de l'arrêté de péril. Et donc on retrouve tout tas de situations, on l'a encore très récemment, de personnes qui réintègrent des logements qui sont dans une situation absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des immeubles ou des logements dont le faux plafond est complètement ouvert, étayé, qui n'ont pas été habités depuis plusieurs mois et qui ont parfois été quittés en une heure. Bon, avec tout ce que ça comporte, avec des gravats au milieu, lorsqu'il y a eu des travaux simplement pour permettre d'évacuer le danger imminent. Mais nous, ce qu'on souhaite, et c'est un des points forts de la charte, c'est que à travers cet accompagnement des familles, on puisse assurer non pas des réintégrations à minima, mais qu'on mette en place, ce qui est totalement absent des services publics aujourd'hui, et notamment des services d'hygiène de la ville, tout un dispositif d'accompagnement pour des sorties d'insalubrité et même d'indécence des logements. Donc c'est un des points forts de la charte, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'au moment de la réintégration, en fait, qu'on ne réintègre pas le ménage tant que le logement n'est pas dans une situation digne de pouvoir accueillir une famille. Bon, c'est un des points, on en a... En fait, cette charte, elle a pour objet de permettre, sur l'ensemble du processus, du moment de l'évacuation, vraiment du jour où les marins-pompiers arrivent et le service des périls arrive pour évacuer l'immeuble, jusqu'à la réintégration définitive de la famille, soit dans son logement d'origine, soit lorsque c'est pas possible dans un logement nouveau, d'accompagner sur un ensemble de garanties ce processus-là. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors je peux vous citer les cinq grands principes qui articulent ce document. On souhaite la mise en œuvre de moyens exceptionnels qui soient adaptés à la crise du logement, donc des moyens financiers et humains qui puissent accompagner l'ensemble de ce processus-là. Le respect du droit au logement décent et adapté pour tous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce soit au niveau des hébergements et des relogements temporaires ou dans le cadre des réintégrations définitives, on exige des pouvoirs publics que des logements soient adapté à la fois à la situation de ressources des ménages, à la composition familiale, à un ensemble de principes, de situations que connaissent les familles. On a parlé des réintégrations, on veille, et c'est un des points forts et sur lesquels on est encore en train de négocier avec les services d'hygiène qui aujourd'hui sont malheureusement très défaillants sur cette question-là, sur la question au-delà du péril de l'indignité des logements. On travaille également à ce que, et c'est un point fort aussi du document, à ce que l'ensemble des informations soient transparentes. Ça a été un débat assez compliqué avec la ville qui ne fournit pas encore à l'heure actuelle l'ensemble de l'information, du processus, de la procédure qui est mise en œuvre auprès des familles, qui se retrouvent donc dans à la fois une violence parfois physique sur leur corps, dans leur chair de ce processus-là, de délogement, mais aussi une violence psychologique, symbolique, sur l'abandon de leur foyer. Bon, parfois dans des situations avec des enfants, avec des problèmes économiques qui s'ajoutent, bien sûr, à la détresse. Donc, on souhaite, à minima, que les ménages aient une information claire sur ce qui les touche. Et on a, par des recherches avec nos juristes, avec différentes personnes qui sont qualifiées, mais aussi avec des témoignages et des logés, donc c'est là où c'est un vrai travail collectif, on a pu montrer au pouvoir public qu'il y avait une obligation en réalité de communiquer à l'ensemble des personnes intéressées au sens de la loi, c'est la loi de 1978 sur l'accès aux documents publics, de communiquer l'ensemble de la procédure, pas seulement aux propriétaires, mais aussi à l'ensemble des personnes qui sont intéressées, dont les locataires. Donc ça, c'est un point qui figure dans la charte et qu'on espère voir appliquer rapidement. Et puis, on essaye, au-delà de ce travail-là de négociation, qui va aboutir, on l'espère, à une signature, à ce que soit mis en œuvre derrière un vrai cadre partenarial avec la société civile, avec l'ensemble des organisations qui se sont structurées, qui ont convergé depuis les effondrements des immeubles et qui est présente dans les négociations avec les pouvoirs publics.
Oui, voilà, on compte parmi elles donc Emmaüs et d'autres qui, voilà, avec qui vous faites un réel travail. Et toi, Martin, tu as été aussi concerné dans ce collectif du 5 novembre. Il y a aussi beaucoup de personnes qui en font partie, qui sont concernées hein, par l'évacuation. Et toi, par exemple, tu as été délogé à un moment donné. Donc c'était il y a combien de mois ? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la situation et comment ça a évolué justement ? Est-ce que toi, tu as un droit de regard sur la situation de ton immeuble aujourd'hui ?
Pour ma part, on a été délogé il y a bientôt 7 mois, là, le 16 novembre. Et pour tout dire, la situation n'a pas réellement évolué depuis, si ce n'est une meilleure communication avec mon propriétaire, 7 mois après. C'est aussi pour ça que, comme tu dis, beaucoup de personnes... quelques personnes délogées ont intégré le collectif, c'est comme expliquait Manu aussi, parce que on a une absence d'information ou de clarté dans l'information. Au début, on a dû se battre pour un peu comprendre dans quelle galère on était rentré. On n'arrivait pas à savoir pour combien de temps on était dans cette histoire. Et faute de trouver les informations à la rue Beauvau, donc dans le service mis à disposition par la mairie, on allait le chercher dans les associations et les collectifs solidaires. Et notamment, le collectif du 5 novembre faisait ça de l'accompagnement, ils avaient mis en ligne un guide de survie, tout un travail avait déjà démarré. Et à partir de là, en fait, on est quelques-uns à avoir rejoint le truc au début pour trouver des infos, et puis petit à petit aussi pour se mobiliser et dire, on va aller chercher nos droits, on va aller réclamer nos droits, les revendiquer. Voilà, donc 7 mois après, c'est ça, c'est aussi pour ça que le travail de la charte est important, parce que je pense que, donc, il y a les grands objectifs, mais aussi ce travail, c'est une espèce de centralisation des compétences, en gros, dans un document. L'idée, c'est de travailler. Donc là, actuellement, on a la mairie et la préfecture. On regrette l'absence de la métropole, mais l'idée aussi, c'est de dire, arrêtons de se défausser de nos responsabilités. Alors, tantôt, on nous dit la responsabilité est aux propriétaires, tantôt, on nous dit la responsabilité à la mairie ou à l'ARS ou ainsi de suite. L'idée, c'est aussi d'avoir un document unique qui permet de centraliser. À la lecture de ce document, on a aussi une information qui nous est donnée sur notre droit. C'est une information qui vient du lourd travail qui a été fait par les experts, les avocats qui bénévoles, Manu en fait partie. Et l'idée, c'est aussi d'aller, voilà, maintenant on a un document unique et on va réclamer ce droit. On a des pouvoirs publics qui semblent pour l'instant aller dans notre sens, avec beaucoup de guillemets. Bon, on se bat pour.
Ben on se, ouais, c'est une bataille hebdomadaire, puisqu'on est reçu par l'État et par la préfecture et par la ville de Marseille depuis 2 mois maintenant, toutes les semaines. Et petit à petit, on essaye à chaque fois, sur chaque question, d'avancer nos arguments. Et voilà, moi je voulais juste compléter en disant que, au-delà de effectivement la signature, nous. Bon, on a un travail aujourd'hui qui, je pense, tient la route, qui a été même salué d'ailleurs hein, par les institutionnels, parce que c'est un vrai travail, encore une fois, collectif, qui rassemble des témoignages vraiment de terrain. Et il faut dire que la charte, elle a été au départ écrite par les délogés et par les commissions qui se sont constituées dans le collectif du 5 novembre, qui ont travaillé avec des gens comme Martin et comme plein d'autres, pour écrire ce document, et qui après a fait l'objet aussi et des allers-retours avec des professionnels tels que moi je l'ai été, ou et bien d'autres, quoi, des juristes, des bons. Et donc, bon, on a un document qui, je crois, aujourd'hui tient la route, sur lequel on est encore en train de négocier un certain nombre de points, puisque les négociations arrivent bientôt à leur terme. On souhaite faire passer ce document-là, le soumettre à la délibération du conseil municipal prochain, qui est le 17 juin. Mais on souhaite surtout derrière qu'il soit appliqué et qu'on continue le débat sur la question du droit à la ville, de faire la ville ensemble avec les citoyens. Et évidemment, à un centre-ville pour tous, mais l'ensemble des partenaires et le collectif du 5 novembre, on a aussi tout un tas de propositions qu'on essaye depuis longtemps de mettre sur la table, et on essaye de peser sur les pouvoirs publics pour les faire entendre. Mais sur le centre-ville, la question de l'habitat indigne, elle passe par une vraie réflexion sur la construction de logements sociaux, sur les servitudes de mixité sociale sur les opérations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on souhaite que sur les nouvelles opérations privées, on ait des engagements forts et qui soient traduits dans les textes d'urbanisme sur l'obligation de construire un minimum de logements sociaux dans chaque opération et pas au-delà d'un certain seuil. Aujourd'hui, le seuil dans les documents d'urbanisme, c'est 100 logements sociaux. Au-delà de 100 logements construits, on a obligation de construire 30 logements sociaux. Bon, on souhaite abaisser ce seuil parce qu'on sait très bien que des opérations dans le centre-ville d'une centaine de logements, il y en a très peu. Bon, on a un travail au-delà de la charte qu'on souhaite mettre en place. Et c'est vrai que ce document-là a permis aussi, avec donc la Ligue des droits de l'homme, Emmaüs, les compagnons bâtisseurs, tout un ensemble, la Fondation Abbé Pierre, le collectif Un centre-ville pour tous et bien d'autres, permis de structurer un discours et d'avoir des luttes partagées qu'on souhaite encore mettre en place et discuter avec les institutions.
D'ailleurs, je crois qu'on peut encore signer cette pétition pour qui est là pour que les citoyens, vous tous, vous pouvez donc soutenir et inciter la mairie de Marseille, en tout cas les institutions, à signer cette charte du relogement. Elle est encore disponible sur Internet. Vous pouvez aller signer et soutenir ainsi les habitants de Marseille.
Oui, merci.
Les dossiers 1538 Méditerranée. Vous êtes bien sur Radio Grenouille avec 1538 Méditerranée. Dans cette dernière partie de l'émission, nous revenons sur le thème de notre dossier estival qui s'intéressera aux libertés. Liberté de penser, liberté de circuler, liberté d'être qui nous voulons être et ainsi que les limites actuelles dans les sociétés méditerranéennes. Pour lancer le sujet, Justin est allé à la rencontre des Marseillais et leur a demandé de décrire leur sentiment de liberté. On écoute Gabriel qui faisait partie de la dernière marche pour le climat à Marseille.
Alors pour moi, le rapport entre la liberté et l'écologie, c'est que en fait, l'écologie, ça part du principe où il faut qu'on puisse penser et il faut qu'on puisse penser par nous-mêmes, en fait. Parce que quand on pense par nous-mêmes, on se pose des questions. Et quand on se pose des questions, évidemment, va venir la question de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'on vit tous sur la planète. Et que, en fait, cette liberté, c'est le droit. C'est vraiment un droit fondamental à la vie. La liberté, c'est de pouvoir vivre comme on l'entend, mais en harmonie avec notre environnement. Parce que si en fait on détruit notre environnement, notre planète, on sera obligé de se restreindre, de se restreindre dans tous nos choix de la vie quotidienne, mais des plus grandes décisions comme ceux qu'ont les gouvernements ou les politiques. Et en fait, cette liberté, elle sera gardée uniquement si on vit en symbiose totale avec notre environnement. Parce que si on ne vit pas en harmonie avec l'environnement, on va être obligé de se restreindre dans nos décisions de tous les jours et dans notre mode de vie. En fait, la liberté aujourd'hui, c'est la liberté de penser un nouveau monde, un nouveau système. Il faut qu'on revoie entièrement notre système de vie. Parce que si on ne vit pas en harmonie avec l'environnement, on ne peut pas vivre en liberté. Pour vivre dans la liberté, il faut absolument vivre dans l'écologie, puisque l'écologie, c'est la vie. Et la vie, elle n'est pas entièrement vécue si on n'est pas libre.
Si le sujet vous intéresse, rendez-vous en ligne sur notre site www.1538méditerranée.com. Des reportages, portraits, entretiens seront publiés tout l'été sur la thématique des libertés. Un mot enfin pour vous dire que nous venons de lancer notre campagne 2019 d'appel aux dons et adhésions. Ce sont eux qui financent les reportages des correspondants de 1538 partout en Méditerranée. Alors si vous souhaitez soutenir l'aventure d'une information originale et indépendante, rendez-vous sur notre site ou sur la plateforme Eloasso, tapez 1538 Trésomède. Toutes les infos sont également sur Facebook et sur notre site internet. C'est la fin de cette émission méditerranéenne, un partenariat entre Radio Grenouille et 1538 Méditerranée. À bientôt.
Pollution,
éducation,
santé,
Algérie, Maroc, Tunisie,
travail,
migration,
amour,
Liban, Syrie,
Espagne, Grèce, Croatie. 1538, des clés pour comprendre et agir
en Méditerranée.
Rendez-vous sur 1538méditerranée.com. 1538.